Voilà, on va continuer à se prosterner un instant dans un moment de prière pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Son message, c'est son message. C'est lui qui nous a laissé sa parole, c'est lui qui veut parler à travers le messager. Alors je voudrais remettre ces moments entre ses mains. Seigneur, tu as nos vies entre tes mains, tu as ce moment entre tes mains également. Tu as prévu ce moment, Seigneur. Tu sais, tu connais toutes les personnes qui sont ici, tu me connais. Tu connais les raisons pour lesquelles, Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu connais également les raisons pour lesquelles, Seigneur, nous avons besoin de nous approcher de toi. Et Seigneur, ce que je réclame, c'est ton esprit. Rien de plus, rien de moins, Seigneur. Oui, avec ta parole, je réclame ton esprit, Seigneur, pour que la puissance de ton esprit trouve le chemin de nos cœurs cet après-midi et que tout soit fait pour l'avancement de ton royaume dans nos vies, dans ton Église et au-delà de ton Église, que la gloire de Dieu se répande cet après-midi au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est la première fois que je suis sur cette estrade et évidemment, ça, c'est toujours une surprise. On est un peu comme ça, c'est un peu surprenant d'être dans une aussi grande salle, mais je bénis Dieu pour cette grande salle. Et même si elle est un peu dégarnie cet après-midi, je crois que le Seigneur veut parler à chacun d'entre nous et aux plus jeunes également, et qu'il veut parler aussi à celui ou à celle qui se trouve à l'autre bout, au fond, à chacun d'entre nous. Je vais demander à celui ou à celle, je crois que c'est toi, d'éteindre un moment la lumière, s'il te plaît. Voilà, tu peux rallumer. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ce message, cet après-midi, s'inscrit dans plusieurs messages qui nous parlent des ténèbres à son admirable lumière. Des ténèbres à son admirable lumière. Et on pourrait aussi, à côté de ce titre, rajouter de la mort à la vie. Dieu est là dès le commencement de la création. Il nous est dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et au commencement de la création, on voit déjà que les ténèbres sont à la surface de l'abîme et à ce moment-là, il nous est dit aussi que l'Esprit de Dieu plane au-dessus des eaux. Les ténèbres sont là. Et la première parole de Dieu, Dieu dit que la lumière soit. Et à cette simple parole, la lumière fut. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est créatrice. Dieu savait que ce monde, où les ténèbres déjà, sur lesquelles les ténèbres déjà planaient, si je puis dire, d'une certaine façon que ce monde avait besoin de la lumière. Mais pas n'importe quelle lumière. La lumière qui vient de Dieu lui-même. La lumière qui veut éclairer toute la terre. La lumière qui veut éclairer chaque être humain. La lumière qui veut éclairer les ténèbres. Et il y a, dès la création du ciel et de la terre, il y a ces deux forces-là, deux forces spirituelles, celle des ténèbres et celle de la lumière. Et ça nous parle du conflit qu'il y a bien avant même que le monde fût créé, le monde visible. Le conflit qui s'est produit déjà dans le ciel entre Dieu le Créateur et Lucifer, qui est devenu Satan, qui est devenu l'adversaire, qui est devenu l'opposé à Dieu, qui est devenu celui qui, par orgueil, et ça doit nous parler à nous, chaque être humain aussi, parce qu'on est devenu comme ça aussi. Satan a voulu être l'égal de Dieu. Alors qu'il avait une place de privilégié, il était à côté de lui, il était dans sa gloire. Et par orgueil, il a voulu prendre la place de Dieu. Alors Dieu l'a précipité. Dieu l'a envoyé sur le ciel et la terre. Et il est là, dès la création. Il est caché dans les ténèbres. Les ténèbres, ça nous parle de quoi ? D'ailleurs, quand on lit le récit biblique, ça nous parle de la nuit, ça nous parle de l'obscurité, ça nous parle de l'aveuglement. Vous voyez, quand on a éteint toutes ces lumières, on était un peu comme des aveugles. Il est difficile de se diriger dans les ténèbres quand il fait noir. C'est très difficile. C'est dangereux. On ne voit pas exactement qu'est-ce qui se passe. Et les ténèbres, ça nous parle aussi de quelque chose de plus, j'allais dire, violent. Ça nous parle de la mort. Et on pourrait dire même, ça nous parle de l'esclavage de la mort. D'une puissance qui veut nous lier jusqu'à nous entraîner vers la mort. C'est pour ça d'ailleurs que l'apôtre Paul dira des ténèbres à la lumière, il dira aussi de la puissance de Satan à Dieu. Donc il y a ces deux forces opposées. Il y a ce conflit déjà qui est là. Vous savez que le monde est en conflit. Aujourd'hui, on est le 11 novembre. On fête le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. J'ai lu ça encore hier. 18 millions de morts. Vous vous rendez compte un peu ? Quel carnage ! 18 millions de morts en Europe, dites civilisées, au début du XXe siècle, après l'ère industrielle, etc., etc., les progrès technologiques, etc. 18 millions de morts, Première Guerre mondiale, dans laquelle nous, Français, évidemment, on a été engagés. La guerre est partout. Les conflits sont partout. Et les conflits sont même en nous-mêmes. L'apôtre Paul décrit ça très, très bien dans Romains 7. Je fais le mal que je ne veux pas. Le conflit va jusqu'à l'intérieur des cœurs. Le conflit entre le bien, le mal, la mort, la vie. À cause de quoi ? À cause de la désobéissance à Dieu. Et à cause de la désobéissance à la parole de Dieu qu'il a donnée au premier homme et à la première femme. Vous savez ce qui s'est passé ? Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais Dieu dit, vous ne mangerez pas, Satan arrive, et lui, il dit, vous mangerez de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors l'homme et la femme ont désobéi, c'est la chute, les ténèbres rentrent dans leur vie, même si Dieu est là, bien sûr, et toute l'humanité a été impactée par ce moment, si je puis dire, désastreux de la désobéissance à la parole de Dieu. C'était si simple. Finalement, c'est si simple d'obéir à l'autorité bienveillante de Dieu et à l'amour de Dieu. Dieu voulait nous préserver du mal, mais voilà, par désobéissance, le mal est entré. Et le mal est entré jusque dans les cœurs de chaque être humain. Pécher, c'est manquer le but. Quel but ? D'aimer Dieu, d'être en communion avec lui, de ne faire qu'un avec lui, d'être en harmonie avec lui, d'être heureux, d'être épanoui, d'être en bonne santé, d'être en bonne relation avec notre prochain et d'aimer notre prochain comme lui nous aime. Et le but a été raté, a été manqué à cause de la désobéissance. Alors les ténèbres, elles sont comme un, vous savez, on peut dire comme un voile épais. Elles sont également comme un mur. Elles sont comme un tunnel dont on ne voit pas facilement l'issue, le bout. Néanmoins, Dieu brille dans les ténèbres. Dieu brille dans tes ténèbres cet après-midi. Tu es peut-être dans un tunnel. Dieu brille dans tes ténèbres. Après que David fut délivré de la main de Saül, son ennemi, qui voulait le tuer, qui voulait le mettre à mort, et de tous ses ennemis, il dira ceci dans un cantique merveilleux : L'Éternel est mon roc, ma forteresse, mon libérateur. Et il dira un peu plus loin : Oui, c'est toi qui es ma lumière. Ô Éternel, l'Éternel éclaire mes ténèbres. L'Éternel éclaire tes ténèbres. Mais il veut faire plus. Il veut les chasser. Daniel, le prophète, l'homme de Dieu bénit Dieu de lui avoir révélé le mystère du rêve de la statue qui a troublé le roi Nebuchadnezzar. Et il dit ceci, c'est lui, Dieu, qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure en lui. Vous voyez, Daniel a eu cette révélation. Et il savait que la lumière de Dieu lui avait révélé ce rêve caché, et il lui a donné l'interprétation. L'évangile de Jean, au chapitre 1er, pas la peine de le lire ensemble, révèle la divinité de Jésus, dès les premières lignes. Il révèle la divinité de Jésus et son pouvoir, et il nous dit ceci, « Au commencement était la parole, car elle était la vie. » Et la vie était la lumière des hommes. Vous entendez ça ? La vie était la lumière des hommes. Quand il y a la parole de Dieu, il y a la vie avec. Cet après-midi, si tu reçois la parole de Dieu, tu as la vie de Dieu. Et avec la vie, tu as la lumière. Tu as ce que tu as besoin pour marcher. Tu as ce que tu as besoin pour aller de l'avant. Peut-être pour sortir de tes ténèbres. Peut-être pour te lever de ton arrêt, sur image, excusez-moi l'expression. C'était la véritable lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tout homme. La lumière brille dans les ténèbres, encore une fois, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue ou à tous ceux qui la reçoivent, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom, et ce nom, ce merveilleux nom, c'est Jésus. Ce nom si grand, ce nom qui est au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Jésus lui-même dira, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ça voudrait dire que celui ou celle qui ne suit pas Jésus marche dans les ténèbres et n'a pas la vie. Mais celui qui suit Jésus ne marchera point dans les ténèbres, et il aura la lumière de la vie. Vous savez que le ministère de Jésus, il a commencé à Nazareth avec une lecture de la parole de Dieu, prise dans le livre d'Ésaïe, et il va faire cette lecture, on va la faire nous aussi, un verset, et il terminera en disant ceci, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accompli. » Non seulement la parole, elle est prêchée, mais la parole, elle doit s'accomplir dans les cœurs. La parole de Dieu, elle n'a pas simplement pour vocation d'arriver dans vos oreilles, mais elle doit accomplir un miracle, elle doit accomplir un changement, Elle doit accomplir une guérison, elle doit accomplir des miracles qu'aucun homme ne peut accomplir. Et Jésus dira ceci, on le voit dans l'évangile de Luc. Alors peut-être que ça peut s'afficher, mais vous pouvez chercher pour ceux qui ont la Bible. Dans l'évangile de Luc, chapitre 4, et verset 18, ça ne s'affiche pas, ce n'est pas grave. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit. Être oint, ça veut dire être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il peut dire qu'aujourd'hui, cette parole est accomplie. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour sauver, mais il est venu pour concrètement guérir les cœurs brisés, les cœurs enténébrés. Il est venu pour proclamer et délivrer les captifs de toutes sortes de captivités. Et il est venu aussi pour libérer ceux qui sont oppressés de différentes sortes d'oppressions. C'est sa mission. Et on peut voir plusieurs histoires dans la parole de Dieu, qui caractérisent cette mission. J'en ai choisi deux en méditant ce message, et vous les connaissez, pour la plupart d'entre vous, très bien, on les connaît très bien, mais à chaque fois qu'on médite ces paroles, on peut réaliser certaines choses, Dieu nous révèle d'autres choses, d'autres aspects, parfois un peu plus fin, un peu plus profond. La première histoire, c'est l'histoire de la femme adultère. Vous connaissez tous cette histoire, bien sûr. Cette femme, prise en flagrant délit d'adultère, elle est amenée par des scribes, des pharisiens, des religieux, au pied de Jésus. Je pense que même ils ont dû l'amener violemment, ils ont dû la prendre, ils ont dû l'amener au pied de Jésus. Et cette femme, elle est là, allongée, et Jésus est là. Et ces hommes sont là, on ne sait pas combien ils sont. Ils sont plusieurs, parce qu'il y a des jeunes, il y a des plus âgés. Et ils sont là autour, il y a comme un cercle. Et cette femme, elle est par terre, elle s'attend à la mort, puisque selon la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée, c'est-à-dire on doit lui jeter des pierres, plusieurs pierres, jusqu'à ce qu'elle meure. C'est long, hein ? À moins que la première pierre fasse son effet tout de suite. Je ne crois pas. C'est ça la lapidation. C'est ça la loi donnée à Moïse à cette époque-là. Donc on prend cette femme parce qu'elle a commis un adultère. L'homme avec lequel elle a commis l'adultère n'est pas là. Hein. Il mérite la même chose. Selon cette loi, il mérite la même chose. Mais lui, il n'est pas là. C'est étonnant, ça. Hein. Voilà. Je ne sais pas s'il est arrivé à s'esquiver, s'il a résisté. Il s'est arraché peut-être de l'emprise de ces religieux. En tout cas, il n'y a que cette femme. Et elle est là au pied de Jésus. Et Jésus, il est interpellé par ces religieux et ils lui disent « Toi, donc, que dis-tu ?» La loi de Moïse est dit « Cette femme doit être lapidée. Et toi, Jésus, que dis-tu » Jésus dit rien. Pour l'instant, il dit rien, Jésus. Il s'abaisse. Et il écrit quelque chose. Je dis qu'en s'abaissant, peut-être qu'il se mettait un peu plus près de cette femme qui était en souffrance, qui avait peut-être son cœur brisé, qui pleurait peut-être, qui savait que c'était ses dernières minutes, ses dernières heures. Jésus est là, il écrit, on ne sait pas quoi, mais Jésus s'abaisse. Jésus est plein de compassion. Il s'abaisse une première fois, il se relève, et puis il dit à ces hommes-là qui sont là, que celui de vous, est-ce qu'il y en a un peut-être, que celui de vous, qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. Ces hommes ne répondent rien, ces hommes s'en vont l'un après l'autre, jusqu'au dernier, nous est-il dit. À ce moment-là, Jésus reste seul avec cette femme, et il se baisse à nouveau, Il écrit encore quelque chose. On ne saura jamais ce qu'il a écrit. Mais je pense qu'il y avait des choses qui se passaient dans son esprit à ce moment-là. Il était en communion avec son Père. Et je pense qu'il a dû peut-être faire une prière en même temps qu'il écrivait. Peut-être qu'il a écrit « Pardon, pardonne-leur ». Je ne sais pas. En tout cas, je crois que Jésus, à ce moment-là, en communion avec le Saint-Esprit, il était aussi en prière. Et il s'est relevé. Et à ce moment-là, il a établi un mini-dialogue, si je puis dire, avec cette femme. Et il lui dit « Personne ne t'a condamné ? » ?»« Moi non plus. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Là, on a le pardon libérateur de l'amour de Dieu au travers de Jésus. Un pardon libérateur. Jésus ne la condamne pas. Ces hommes voulaient la condamner et la tuer. Alors, je suis toujours surpris, moi, parce que dans les 10 commandements, il y a « tu ne tueras point ». Ces hommes, c'est des religieux. Ils connaissent les 10 commandements. Ils sont censés les appliquer. Et ils veulent donner la mort. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur ? Jésus libère cette femme. Je crois qu'il l'a guérie même, à ce moment-là. Il a guéri de son brisement intérieur. Vous voyez, il a guéri dans son cœur. Je crois que cette femme, elle a vécu à ce moment-là une guérison intérieure. Tellement l'amour de Jésus s'est manifesté en elle. Donc Jésus a guéri cette femme. Elle l'a délivrée aussi de ses oppresseurs. Elle a été délivrée de ses oppresseurs. Mais on peut remarquer aussi que si cette femme a été guérie, a été libérée, a été délivrée, et que Jésus lui a accordé le pardon, en lui disant « va et ne pêche plus », les hommes qui devaient tuer cette femme ont été d'une certaine façon eux aussi renvoyés à leur conscience, ils ont été aussi délivrés de la puissance de mort qui était en eux. De la loi, de l'esclavage, la parole dit, il y a 3 sortes d'esclavage. Il y a l'esclavage du péché, il y a l'esclavage de la loi, et il y a l'esclavage de la mort. Ces hommes, en tout cas pour un temps, je crois qu'ils ont été délivrés, au travers de cette intervention de Jésus, de leur esclavage. Après, je ne sais pas ce qui en est advenu pour eux. En tout cas, il a renvoyé, si je puis dire, libre tous les protagonistes de l'histoire. Deuxième histoire que j'aime beaucoup, parce que j'ai l'impression d'avoir assisté, c'est l'histoire du mendiant aveugle. Voilà un homme qui est aveugle, on ne sait pas depuis combien de temps, et qui est assis. Assis au bord du chemin. Il y a un chemin, et lui, il est assis là. Ou si vous préférez, il est là, le chemin. Il mendie parce qu'il ne peut pas gagner sa vie autrement. Il ne voit rien. Il y a la foule. Il entend parler de Jésus. Jésus est là, dans la foule. Et il commence à élever sa voix. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a dû peut-être élever sa voix d'une manière un peu plus forte que la mienne. Et puis, toute cette foule-là a essayé de le faire taire. Arrête, chut! C'est Jésus, laisse-le, ne l'embête pas. Jésus a entendu, continue un petit peu. Avancé, il a recrié encore, et là, Jésus l'a fait appeler. Alors, des hommes qui étaient là, sûrement, ils ont dit, Jésus t'appelle. Il est toujours aveugle, hein ? Il est toujours dans l'obscurité au bord du chemin. Il est assis, c'est un chemin pour lui, c'est un chemin de mort, en quelque sorte. Il est là, qu'est-ce qu'il peut attendre de la vie ? Quand on est assis, on est déjà à demi-mort. quand on est aveugle, qu'on est mendiant, en plus dépendant des autres, on n'est pas dans la vie, hein, c'est un chemin de mort qui est là pour lui. Et donc, le maître l'appelle, Jésus l'appelle, et il nous est dit, d'un bond, il est aveugle, hein, il ne sait pas où il va, hein. D'un bond, il s'est levé et il a été vers Jésus. Il a jeté son manteau, il a été vers Jésus. Il est encore aveugle, hein, il a été vers Jésus. Comment il y a été? Par la foi. Pas par la vue, hein. Pour nous, des fois, c'est difficile, même par la vue, d'aller vers Jésus. Lui, il y a été par la foi. Entre parenthèses, c'est comme ça qu'il faut aller vers Jésus. Si Jésus t'appelle cet après-midi, et je crois qu'il t'appelle, lève-toi, vas-y. Même si tu n'y vois pas clair, et surtout si tu n'y vois pas clair dans ta vie, surtout si les ténèbres t'obscurcissent, tu te lèves et tu vas vers Jésus, tu réponds à son appel. Tu ne seras pas déçu. Et ce qui est extraordinaire aussi dans cette histoire, c'est que non seulement cet aveugle recouvre la vue physique, mais il recouvre la vue spirituelle. C'est la plus importante d'ailleurs. À ce moment-là, cet homme, il est sauvé de son aveuglement, mais de son aveuglement spirituel. Et l'histoire finit ainsi, il était assis sur le bord du chemin et il va vers Jésus. Il suit Jésus sur le chemin. Donc cet homme était assis là, il n'avançait plus, maintenant le voici, il a recouvré et il s'en va vers Jésus. Et il suit Jésus. Il est libéré, il y voit clair. Parce que Jésus, lui, il n'est pas statique. Hein. Jésus, il est déjà parti, il est déjà en mouvement, il en a d'autres à sauver, il en a d'autres à aller chercher. Et cet homme, il le suit maintenant, il ne se pose plus de questions. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cet homme, il a expérimenté ça. Et si tu veux l'expérimenter cet après-midi, c'est tout à fait possible. Jésus a remporté la victoire sur les ténèbres. Je n'ai pas entendu un amen. Jésus a remporté la victoire sur les ténèbres. En deux actes. Le troisième acte, d'ailleurs, il est pour chacun d'entre nous. Le premier acte, c'est sur la croix. Le premier acte de la victoire de Jésus sur les ténèbres, c'est sur la croix. Je vais juste prendre avec vous quelques versets dans les dernières heures de Jésus sur la croix. Dans l'évangile de Marc, chapitre 15. À la sixième heure, c'est midi, plein jour, midi, le soleil du midi, il frappe. Il y a la lumière du soleil qui est là. À la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la neuvième heure, pendant 3 heures, jusqu'à 3 heures l'après-midi, des ténèbres sur toute la terre. Jésus est là encore sur la croix. C'est ses derniers moments. Il souffre. Il souffre, il combat. Il combat pour nous, hein. Vous savez que Dieu combat pour nous, pas contre nous, hein. Celui qui combat contre nous, c'est l'adversaire de Dieu. Celui qui combat contre Dieu, c'est l'adversaire de Dieu. Dieu combat pour nous. Jésus combat pour nous sur la croix à ce moment-là. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani ?» Ce qui se traduit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce moment-là, il se sentait abandonné, il était abandonné à cause du croix du péché, du péché qui portait, du péché de l'humanité entière. Et pour un temps, Dieu, il y avait une coupure avec Dieu. Dieu ne l'avait pas abandonné en réalité. Il y a une coupure avec Dieu, dans sa communion avec Dieu. Parce que Dieu ne peut pas supporter le péché. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors, quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient, voyez, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir de vinaigre une éponge, la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Encore, il se moque de lui. Ça continue jusqu'au bout. Mais Jésus jeta un grand cri, puis il expira. Au passage, il ne nous est pas dit qu'il mourut. Il expira. Dans une autre version, il dit, Père, il fait cette prière, Père, je remets mon esprit entre tes mains. En réalité, Jésus ne meurt pas, il meurt dans sa chair. Mais il est vivant quand tu as l'esprit. Encore plus à ce moment-là, si je puis dire. Parce que c'est le moment de la victoire sur les ténèbres et sur la puissance de Satan. Alors, il nous est dit, le voile du temple. C'est épais le voile du temple. Hein. Je n'ai pas le temps là d'expliquer un peu en détail l'épaisseur, la hauteur de ce voile du temple qui sépare le lieu très saint avec le lieu saint. Le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. À ce moment-là, au moment où Jésus remet son esprit entre les mains de Dieu, le mur de séparation entre Dieu et le pécheur brisé. Il est renversé. Ce mur qui t'empêche, qui nous empêchait de revenir à Dieu, de nous approcher de Dieu, d'être avec Dieu, d'être en communion avec lui, de bénéficier de sa présence, à ce moment-là, ce mur de séparation, il est brisé, il s'écroule. C'est la victoire, acte 1. Jésus a la victoire sur la puissance des ténèbres du péché. Alléluia. Deuxième acte, dans le séjour des morts. On sait que Jésus restera 3 jours. Mais il avait annoncé tout ça. Et il avait annoncé aussi qu'après 3 jours, il sera ressuscité, reviendra à la vie, c'est ce qui s'est passé dans le séjour des morts pendant 3 jours. Par l'Esprit, Jésus-Christ répand la lumière de vie. Il nous est dit dans l'épître aux Romains, à première épître de Pierre, je vous le lis, il y a un verset qui nous dit ceci, « Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'Esprit. » Alléluia. Selon l'Esprit, par cet Esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Dans le séjour des morts, qui n'a pas pu retenir Jésus, Jésus était vivant par l'Esprit. Il était vivant, il parlait aux esprits qui étaient morts. Pour les ramener à la vie. Il nous est dit dans 1 Timothée 1,10, Jésus a réduit à l'impuissance la mort. Je vais le redire parce qu'un petit amen, quand même, ça ferait du bien. Jésus a réduit à l'impuissance la mort. Il faut se réveiller. Réveillez-vous d'entre les morts. Toi qui dors, réveillez-vous. Réveille-toi. Jésus a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Quelle bonne nouvelle. Par sa mort et sa résurrection, c'est l'acte 2. La résurrection, la mort et la résurrection, c'est très lié. Jésus a la victoire sur les ténèbres du péché et de la mort. Cette victoire, elle peut être aussi pour toi, et ça c'est l'acte 3, si tu l'as saisi par la foi. Alors ça sera ta victoire. Parce que je crois que Jésus veut nous associer à sa victoire. La victoire est acquise du côté de Jésus. Maintenant, est-ce qu'elle est acquise dans ta vie? Est-ce qu'elle est acquise dans ma vie? Dans la vie de Bartimée l'aveugle, la victoire a été acquise. Dans la vie de la femme adultère, la victoire a été acquise. Dans ta vie, est-ce que la victoire a été acquise? Ou est-ce que la victoire sera acquise quand tu sortiras de ce lieu tout à l'heure? C'est la question que Jésus te pose cet après-midi. Des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu. On va se prosterner, on va fermer les yeux maintenant et prier un moment le Seigneur. Et après, je laisserai la place à Pasteur Yvan. Seigneur, tu es le créateur de la vie, de toute vie. En toi, il y a la vie. Et avec la vie, il y a la lumière qu'il nous faut. La lumière de l'Évangile, la lumière du bonheur, la lumière de la guérison. Seigneur, tu nous le donnes. Tu nous as envoyé Jésus, tu nous as donné Jésus. Jésus s'est donné. Jésus a donné sa vie pour que nous ayons la vie aussi qui vient de toi, que tu as créée, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, parce que quand tu parles, ce que tu dis, tu veux que ce soit accompli dans les vies. Et je crois que cet après-midi, c'est aussi ton désir. Seigneur, je veux prier pour tous ces bien-aimés, ces amis qui sont là cet après-midi, qui ont besoin de toi, qui ont besoin de t'accueillir, de recevoir cette vie, qui ont besoin de s'abandonner à toi et de te faire confiance. Tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu merveilleux. À qui irions-nous d'autre qu'à toi, Seigneur ? Toi qui es la parole de la vie éternelle. Merci Seigneur, parce que maintenant, par ton esprit, tu vas prolonger, si je puis dire, ce moment en produisant encore la vie dans les cœurs brisés, la vie dans les âmes oppressées, la vie aussi dans toutes les sortes de captivités. Seigneur, je crois en ta parole, je crois en la puissance de ta parole. Et je crois aussi à la puissance de ton esprit. Que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia.
Amen.
Nous espérons que vous avez été encouragés par ce message. Pour plus de renseignements sur notre Église ou découvrir d'autres messages de l'Évangile, n'hésitez pas à visiter notre site églisecielouvert.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous vous invitons également à nous retrouver chaque semaine à Saint-Étienne-du-Rouvray pour nous dire